Moi, je suis convaincu qu'on a la capacité de transformer le monde qui nous entoure. Très vite, j'étais renforcé dans ce sens-là. C'est-à-dire que lorsque, à 6 ans, tu arrives à écrire un petit journal pour aller gagner un petit peu d'argent, pour envoyer des lettres, et que ça prend et que tu as des réponses, ça te renforce, c'est-à-dire je peux faire plus. Très vite, j'ai fait des expériences qui m'ont prouvé qu'on peut penser plus grand que ce qu'on croit, on est moins limité que ce qu'on croit.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'alignement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Des moments forts que vous pouvez retrouver dans mon nouveau livre « Pause pour une vie alignée ». Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça signifie être aligné ? Eh bien, être aligné, c'est être la vraie version de nous-mêmes. Pas la meilleure, pas la version idéale que l'on a l'habitude de montrer sur Instagram, mais celle que l'on est réellement, celle de la vraie vie. Sans cacher nos échecs, nos blessures, nos failles. L'alignement, c'est une rencontre avec soi-même. C'est donc évidemment le projet d'une vie. Mon but, avec ce livre, est de vous donner des pistes de réflexion, des outils et des exemples. Les miens, mais aussi ceux des personnalités incroyables que j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro pour vous aider à le trouver, à l'atteindre, afin d'être véritablement épanoui. J'ai évidemment hâte de lire vos retours. Maintenant, place à l'épisode. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'un entrepreneur à mission qui a créé un événement mondial devenu incontournable autour de l'impact, Change Now. Originaire d'un petit village, il grandit dans un milieu très modeste, ce qui le pousse très tôt à développer une envie de faire bouger les choses dans notre société. L'entrepreneuriat, il le voit très jeune comme un outil puissant pour avoir un impact. Diplômé de l'EM Lyon, c'est pourtant d'abord vers le secteur bancaire qu'il se dirige. En 2010, il décide de quitter son poste pour devenir entrepreneur. Mais c'est en 2015 que le déclic s'opère et qu'il décide de revenir à ce qui lui importait le plus à l'enfance, avoir un impact positif. Il cofonde ainsi Change Now, le plus grand événement des solutions pour la planète au monde. Alignement, entrepreneuriat, environnement, ascension sociale, et se confie le temps d'une pause sur son parcours engagé et inspirant. Bonjour Santiago Lefebvre.
Bonjour Alexandre.
Tu vas comment ?
Ça va bien. J'adore le titre de ton podcast, Pause, parce qu'on n'en fait pas assez.
T'arrives à en faire, toi ?
Parfois. Il y a des petits moments dans l'année où je me sens... Je prends un peu de recul, mais sinon, c'est vrai que j'aime bien... je suis toujours sur plusieurs choses en permanence.
Mais quand tu fais une pause, justement, est-ce que c'est un moment où tu vas dire à ta femme, Rosemée, et à vos enfants, vous savez, là, j'ai besoin d'un peu de temps à moi ? Comment tu définis une pause, toi ?
Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai un profil assez introverti. Et les introvertis, par rapport à un extraverte, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il a besoin d'être un moment seul pour se ressourcer. Donc moi, j'ai besoin de ces moments aussi parfois seuls. Voilà, on s'arrange parfois.
Mais c'est quoi, par exemple, pour toi, un moment seul où tu te dis, voilà, là, je me ressource, c'est quoi ? C'est tu vas marcher ? C'est que tu vas au cinéma ? C'est que tu lis ?
Alors, cinéma, lecture, en effet, c'est surtout ça. Marcher un peu moins. J'aime bien me retrouver seul dans mes pensées, dans ma tête, en fait, avec un bouquin, une feuille de papier et un stylo. Là, je me ressource à fond parce que j'ai besoin, finalement, de remettre en ordre tout ce que j'ai dans ma tête, tout ce que j'ai au fond de moi, en fait.
Je te qualifiais d'entrepreneur à mission dans l'introduction. C'est quoi pour toi la définition aujourd'hui d'un entrepreneur à mission ?
Un entrepreneur à mission, pour moi, c'est quelqu'un qui entreprend pour quelque chose de plus grand que lui-même, en fait. Il a vraiment envie de changer quelque chose de profond dans la société, quelque chose qui l'a heurté, quelque chose... En fait, pour moi, il y a vraiment la notion de bien qui apparaît dans l'entrepreneur à mission. L'entrepreneur à mission cherche à créer du bien dans cette société.
Bien pour les autres, en fait.
Du bien pour les autres.
Tu as grandi donc dans un petit village entre Paris et Orléans, Angerville, au sein d'un milieu très modeste. Tu as deux grands frères, ton papa était électricien, ta maman femme au foyer. Quand j'évoque ton enfance, quels souvenirs te reviennent le plus vite ?
Forcément de la joie, beaucoup d'activités. C'était aussi... Moi, j'ai grandi quand même dans une famille qui était pauvre. Il y avait vraiment une peur parfois de savoir si on allait garder notre maison, des trucs comme ça. Moi, ça m'a travaillé très tôt.
Très jeune, t'avais le stress des parents était ressenti chez toi.
À 6, 7, 8 ans, je vivais avec ça, tu vois. Et en fait, ça m'a toujours suivi. C'est-à-dire que quand t'es artisan, électricien, dans un petit village, tu gagnes pas des fortunes. Hein. Et ma mère, elle venait vraiment du monde plus associatif. Elle s'occupait des Restos du Cœur, du Secours Populaire, des trucs comme ça. Et donc, elle donnait son temps plus pour le bien commun.
T'as un nom très français, Lefebvre, t'as un prénom très hispano, oui. Parce que ta maman a fui le franquisme et donc est espagnole, et donc est arrivée justement en France.
Exactement, elle est venue, en fait, elle était jeune, venant de Madrid, une grande capitale européenne quand même, et elle se retrouve finalement dans un petit village en pleine campagne, c'est
combien
en pleine
bosse. Hein, combien d'habitants quand t'as
aujourd'hui 3600, quand elle est arrivée, il y en a la moitié. Donc, on passe d'une capitale à un village de 2000 habitants.
L'amour.
Et oui, ouais, ouais.
Donc, toi, tu dis que dès 6 ans, c'est intéressant, parce que dès 6 ans, en fait, tu te rends compte que, le manque est là, le manque d'argent. Ouais. Est-ce que ce manque d'argent, conditionnait un monde plus difficile? Est-ce que tu étais moins heureux, tu penses, à cause de ça? Ou juste comme tous les mois, il y avait un stress qui revenait régulièrement pour payer les factures?
Je dirais, il y a deux choses. C'est pas forcément moins heureux, je pense pas. Je pense que j'étais quelqu'un d'extrêmement heureux et je le suis encore. Tiens, c'est quelque chose, je pense que j'ai toujours eu ce côté vouloir vivre à fond et tout. En revanche, je me souviens de certains éléments où moi j'avais un peu honte, par exemple. Parfois, c'est plus le caractère de honte. Tu vois, j'avais honte de faire venir mes copains chez moi parce que c'était pas une
modeste
maison neuve, ouais. Exactement. Pareil, parfois, on n'avait pas d'argent pour payer la cantine. Donc, moi, je mangeais avec mon petit pique-nique et je ne voulais pas que les gens me voient pique-niquer. C'était aussi, voilà, il y avait plus le côté un petit peu, peut-être ce côté honte parfois, que j'ai réussi après à surmonter. Parce qu'au final, il n'y a pas de honte finalement à ne pas avoir d'argent, tu vois.
Dès l'enfance, donc, tu ressens l'envie d'avoir un impact positif. Tu es très soucieux de l'écologie, du bien-être animal. Tu nous racontes un peu cet appel de la WWF qui a encouragé donc les enfants à leur envoyer des cartes pour se tourner à la cause animale. Alors là, tu as quel âge à ce moment-là?
Je dois avoir 7 ans, un D'accord. truc comme ça.
Et donc toi, là, tu te mets bien en tête que tu vas leur envoyer quand même un paquet de cartes.
Oui, en fait, déjà avant, je pense que très tôt, au début, je voulais être... ce qu'on appelle directeur d'animaux. Donc, je voulais m'occuper soit d'une réserve et tout. En tout cas, je voulais travailler au contact de la nature et des animaux. Et y avait une émission, donc c'était pas WWF, mais c'est Terre Attention Danger. Une émission, il y avait le Dr Klein et Dorothée. Et à chaque fois, il y avait une présentation d'un animal sauvage. Et à la fin, il fallait envoyer un courrier. C'était une sorte de pétition où il fallait envoyer une carte postale. Et donc, j'avais envoyé une première carte postale. Et puis, je me suis dit, je veux faire plus. Je suis sûr, je peux peser davantage. Et donc, j'ai commencé j'ai pris une machine à écrire qu'on avait quelque part. Je commence sur une feuille A4 à écrire des petites choses que je vais vendre à ma voisine. Et avec l'argent, je vais acheter des nouveaux timbres et des cartes postales. Et j'en envoie comme ça.
T'en envoies combien comme ça?
Je sais plus.
Et donc c'est vrai qu'à un moment ou un autre, ils t'ont dit arrêtez de nous en envoyer, c'est vraiment ça? Parce que...
Ouais, j'ai reçu une lettre de c'était des productions de TF1 à l'époque, qui disaient merci beaucoup pour vos lettres, c'est super précieux, etc. Mais s'il vous plaît, arrêtez de nous en envoyer.
Santiago, je te propose maintenant une pause amicale, on va plutôt faire une pause familiale. Tu nous parlais de cette volonté que tu avais quand tu étais petit, quelqu'un qui t'aime beaucoup et que tu aimes énormément te pose une question.
Santi, pourquoi quand tu étais petit, tu voulais être directeur d'animaux? Et tu m'expliquais que tu voulais être un directeur d'une réserve en Afrique des animaux. Alors, c'est ma question. Pourquoi tu avais pensé à ça?
Question de Célie,
ouais.
Donc ta maman,
ma maman.
Qui te pose cette question-là. Donc tu lui avais dit, hein, c'était pourquoi? Elle te pose encore la question, pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était vraiment cette émission?
Alors ça c'était avant, et vous avez bien bossé, hein, parce qu'il faut avoir la maman, c'est quand même pas mal.
C'est sympa la maman.
C'est sympa. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de caractère, de force, c'est une vraie force. Ouais. Tu vois,
Est-ce qu'elle t'inspire? Est-ce que ta maman, tu le disais tout à l'heure, elle a passé son temps à s'occuper des autres, à travailler pour des associations. Toi aujourd'hui, dans ce que tu deviens, ce que tu es devenu, on voit quand même une filiation ici.
Oui, je te dirais que c'est pas forcément une filiation directe là-dessus. C'est plus qu'en effet, elle m'a autorisé à plein de choses. C'est-à-dire que très tôt, j'ai fait des choses qui, normalement, à mon âge, les parents auraient pu dire « qu'est-ce que tu fais ?» etc. Tu vois. À 6 ans, je voulais faire de la chimie, des trucs comme ça, et ils me laissaient faire. D'ailleurs, le plafond s'en souvient encore parce que j'ai eu quelques explosions de produits et tout. Mais en tout cas, ils m'avaient laissé beaucoup de liberté et beaucoup d'encouragement. C'est-à-dire que, et ça, on en reviendra peut-être, mais si à l'âge de 17 ans, je suis devenu président d'une des associations de jeunesse, c'est aussi sous son impulsion. Elle m'a dit, vas-y, fais ton expérience, aie confiance, etc. Donc, elle m'a beaucoup appuyé.
Tu ne m'as pas forcément répondu, pourquoi,
oui, pourquoi
tu veux être à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te souviens? Pendant que tu réfléchis, je me souviens d'Emmanuel Faber, qui était ici, l'ancien président de Danone et le président actuel de l'ISSB, qui, quand il était à ce micro-là, disait que très jeune déjà, il était pour plus de justice sociale. Il se souvenait qu'une fois, il est allé un peu engueuler une maman qui traitait mal son fils, qui avait 4 ans. Il se souvient d'avoir 4 ans, ça. Donc, il avait ça un peu en lui. Toi, tu penses que c'est juste inné? Tu penses qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça?
Je sais que la nature m'a toujours beaucoup parlé. Je pense qu'au début... j'étais fasciné par la diversité des animaux. Je pense que très tôt, j'avais aussi un petit bouquin où j'avais appris par cœur les noms de tous les noms bizarres d'animaux, tu vois.
Lequel, par exemple?
Le zébu, le yak, des trucs comme ça.
C'était pour le Scrabble, ça, que tu disais, ça, c'est ça? C'était bon au Scrabble.
Mais en tout cas, voilà, j'avais... j'ai été marqué par plein de choses. C'est-à-dire que très tôt, par exemple, aussi, j'avais été marqué par un reportage sur Greenpeace et les baleines. Et je me souviens que mes jeux de billes...
C'est ça, tu veux dire, il y avait les baleiniers d'un côté.
C'est là, les calots, c'était les baleiniers. Les billes, c'était Greenpeace qui essayait de s'interposer. Je pense que j'ai eu beaucoup ça. Et puis après aussi, c'était un petit peu plus tard, mais pas tant que ça. J'ai aussi recueilli un petit oisillon qui était tombé de son nid. Mais vraiment, c'était une mésange bleue. Trop belle, et il était, mais il devait avoir juste que quelques jours. Et puis là, je l'ai biberonné, etc. Je l'ai vraiment fait grandir. Et après, malheureusement, quand il est mort au bout d'un mois, mais c'était un déchirement. J'ai pleuré. Et je pense que j'avais un lien fort avec la nature très tôt.
À l'adolescence, comment tu te projettes? Tu te voyais vétérinaire, justement, ou tu voyais autre chose?
Alors non, pas vétérinaire, parce que vétérinaire, justement, c'était peut-être la chose que j'avais un peu au tout début en tête. Et je me disais, en fait, je veux faire plus, je veux accompagner plus d'animaux, je veux faire quelque chose d'un peu plus grand. Je pense que j'ai eu quand même ce caractère de toujours rêver grand très tôt, en fait.
Comment tu l'expliques, justement? Toi qui étais dans un petit village de 1600 personnes, qu'est-ce qui te faisait rêver tôt plus grand? T'extirper de là?
Ouais, ça, carrément. Ouais, je voulais sortir de là. Je voulais, je pense, je me montrais à moi, à l'extérieur, qu'on n'a pas forcément de limites par rapport à l'endroit où on est né. Tu vois, on peut vraiment... moi, je suis convaincu que, et je pense que c'est l'expérience aussi qui m'a renforcé dans ça, qu'on a la capacité de transformer le monde qui nous entoure. Et je pense que très vite, j'étais renforcé dans ce sens-là. C'est-à-dire que lorsque, à 6 ans, tu arrives à écrire un petit, 6-7 ans, un petit journal pour aller gagner un petit peu d'argent, pour faire envoyer des lettres, et que ça prend et que tu as des réponses, ça te renforce à dire je peux faire plus, etc. Tu vois, et je pense que très vite, j'ai été mis dans j'ai fait des expériences qui m'ont prouvé qu'on peut penser plus grand que ce qu'on croit, on est moins limité que ce qu'on croit.
On continue ces années-là, tu arrives justement à cette adolescence, oui. Un métier qui t'intéresse un peu plus, qui t'interpelle plus?
Adolescence, au lycée, on est aux années 2000 quasiment. Ouais. Et il y a, on est 96, 97, ouais. Il y a la bulle Internet qui monte à fond. Et donc, c'est les premières fois où je me suis dit, je vais être entrepreneur. Et donc, j'ai appris, j'ai lu plein de bouquins sur l'entrepreneuriat. Je commençais à créer, j'ai fait mon premier BP de start-up, de la tech. Alors, bien sûr, j'étais pas encore du tout, t'imagines bien en étant dans un petit village où t'as zéro business angel, zéro incubateur, aucun accompagnement, aucune formation. Mais en fait, c'est resté à l'état de projet. C'est tout.
T'en souviens, il est où ce business plan, justement? Tu l'as encore quelque part? Tu l'as mis sur, il doit être bien sur un fichier quelque part. Tu l'as revu ou pas? Tu l'as regardé?
Oui. En fait, j'en ai eu deux. Et le premier, c'était un ancêtre du Bon Coin. Et le deuxième, Et ça, c'était plus après, même quand j'étais en école, il fallait créer un projet. J'avais imaginé aussi un ancêtre de Netflix, vraiment, où on pouvait voir à la demande des vidéos. Et à ce moment-là, personne n'y croyait. Ah, c'est un truc de fou. Truc. Ouais. Donc, on a fait une épicerie internationale à la place en projet. Chaud. Personne n'y a cru. Voilà.
Dans les rencontres, c'est un sujet majeur pour nous tous, hein, ces rencontres, les personnes qui, à un moment ou à un autre, se sont trouvés sur ton parcours de vie. Ça, c'est un sujet essentiel pour moi. Je l'écris d'ailleurs dans mon livre Pause pour une vie alignée. Et je parle de ces rencontres qui ont été essentielles pour moi. Et il y en a une qui, je pense, est très importante pour toi. C'est cette rencontre avec ce professeur d'économie en terminale qui, là, t'ouvre un champ des possibles qui était pour toi inconnu, en fait.
Ouais. Bah, mon parcours scolaire, en effet, il est assez... assez bizarre, c'est-à-dire que ma primaire se passe extrêmement bien, j'arrive toujours, enfin j'ai des facilités en primaire, etc. En revanche, le collège dans lequel je vais est un collège très difficile, dans lequel clairement je décroche, je capte plus rien. J'arrive en seconde sans savoir ce qu'une abscisse une ordonnée, et je ne sais absolument, enfin vraiment, je pars de très très loin, à tel point qu'en seconde, on me propose même on me recommande de redoubler. Et moi, un peu par côté d'orgueil, je dis non, je redouble pas, je sais que je peux y arriver et je vais en première ES. Et l'économie, déjà, commence à. Je sais pas pourquoi, j'ai une compréhension innée de ces grandes masses. En fait, je réfléchis énormément par grandes masses dans la vie et l'économie, c'est beaucoup ça. Et donc là, j'ai un déclic et ça commence à me mettre sur la voie, à tel point que. En début de terminale, mon prof d'économie me dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et j'avais vu quelques jours auparavant sur Capital, qui était tu vois, mon émission fétiche de jeunesse, j'avais vu Stanford, Harvard, et je m'étais dit bah, « je vais faire un truc comme ça. » Et il me dit « Oula, pour faire ça, il faut que tu passes par une école de commerce, il faut que tu fasses une prépa avant, et pour ça, il faut que tu lises, il faut que tu commences à lire. » Et donc, je m'ai commencé... à lire énormément, et parce que je lisais quasiment rien avant. En terminale, j'ai commencé à lire. J'ai bouquiné à fond. Et j'ai rattrapé mon retard comme ça au fur et à mesure. Et ça, en effet, cette rencontre-là a changé ma vie.
Comment il s'appelle ce prof ?
Monsieur Attala.
Il voit un potentiel que les autres n'avaient pas vu en toi ?
Il a vu les facilités que j'avais d'un point de vue économie. Je pense qu'il avait vu aussi, il avait dû regarder, mais les progressions que j'avais dû avoir un petit peu sur l'année dernière. Mais il m'a dit à ce moment-là, voilà, ce que je te propose, venant d'un lycée, du lycée où on est, c'est très dur. D'ailleurs, quand il a vu que je postulais surtout à des prépas parisiennes, il avait commencé à avoir peur, en disant non, va plutôt dans une prépa de banlieue et tout, c'est déjà bien, tu vois. Et en fait, non, j'ai quand même tenu bon, parce qu'il avait quand même un peu, tu vois, je pense que sur les 2500 élèves qu'il y avait au lycée d'Étampes où on était, c'est peut-être deux personnes qui sont allées en prépa. Et donc, c'était quand même un vrai saut. Et lui m'a dit, ça, je le propose qu'à des personnes qui en ont sous la pédale. Et je pense que toi, t'en as sous la pédale.
Merci, monsieur Attala. On va donc continuer avec une deuxième pause amicale. On l'écoute.
Mon senti, si tu pouvais revenir parler au petit garçon ou à l'ado que tu étais, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ?
Rosemée, qui est donc ton épouse, et qui te pose cette question-là, mon senti. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est trop mignon. Merci Rose de cette question.
Alors, qu'est-ce que je dirais au garçon ? En vrai, j'ai surtout envie de lui donner des mots de confiance. En fait, l'avenir, il peut faire peur. Il fait peur, généralement. Tu vois. Et je lui dirais, aie confiance, tu peux faire beaucoup de choses. Les peurs t'emmènent souvent vers des chemins qui ne sont pas forcément les bons. Donc, essaye de garder le plus de confiance en toi. Moi, je sais que ça m'a fait partir sur des choses où après, bah, tu reprends du temps, tu vois, à te retrouver. Et puis après, très clairement, je redirais quelque chose que ma maman m'a dit beaucoup, qui m'a guidé énormément, qui est apprends autant que tu peux. Apprends de tout. Tu ne sais pas quand ça va te servir, mais ça te servira un jour ou l'autre. Et donc, cette soif d'apprendre, je trouve qu'elle m'a guidé et elle me guide toujours. Et c'était un bon driver, une bonne boussole.
Merci, Rose, pour ta question. Donc, bac en poche, tu l'as ? Tu as un bac avec une mention quand même, quelque chose ?
Alors, oui, j'ai une bac.
Mention passable ?
J'ai une bac avec mention bien. Ce qui est tout à fait incroyable vu de mes notes que j'avais 18 mois avant.
Tu fais tes classes préparatoires à Paris ? Tu n'as pas les moyens, on l'a vu au préalable, en tout cas la famille n'avait pas les moyens de te payer facilement donc un logement. Donc là, tu dois faire 3 heures de trajet, en fait, pour t'y rendre, c'est ce que tu, ton quotidien. Est-ce que tu t'es senti, à cause de ça, en décalage avec les autres élèves? Est-ce que, à nouveau, tu avais la honte dont tu nous parlais un peu plus tôt, c'était à nouveau là, de dire, bah, les gars, moi, je n'ai pas forcément les moyens, donc on n'est pas dans la même... dans la même tranche ou pas tellement?
Non, et puis en prépa, en fait, je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup...
Le temps de sortir, c'est que ça.
Quoique, même si en fait, quand je rentrais dans mon village, j'avais vraiment mes amis d'enfance et on faisait beaucoup de choses. J'ai beaucoup joué au poker pendant mes classes, pendant mes années
avec
prépa.
Avec tes potes dans Jarville.
C'est ça, c'était les années de The Rounders.
Tu t'es dit, moi aussi, je vais apprendre le poker.
Exactement. Mais en soi, non, ça, franchement, ça a été deux années à la fois difficiles mais passionnantes. C'est-à-dire que moi, la prépa, je l'ai vécu. Tu vois, quand tu as soif d'apprendre, moi, j'ai découvert le monde. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a mis des réacteurs à ce moment-là.
C'est assez binaire. Les gens aiment soit beaucoup la prépa, soit détestent. Toi, tu faisais partie des gens qui ont beaucoup aimé.
Ouais. Pour moi, c'était on m'a mis des réacteurs dans le dos, là, et j'ai appris énormément. C'est vrai que voilà, les transports étaient compliqués. J'ai une gratitude éternelle envers mon père qui, je me souviens, mais tous les jours, on se levait à 5h40. 5h40, pour qu'on puisse partir à 6h15 de la maison. Il m'emmenait à 20 km de chez nous pour prendre le RER qui était en terminus à Étampes, pour faire ensuite le RER. Changement RER à B, marcher jusqu'à la prépa. Et hop, et à 8h, pile, j'arrivais en prépa. Et après, le soir, je rentrais d'Austerlitz en Gerville. Il y avait un train, c'était un tout petit peu plus facile. Mais tous les jours, ça. Donc, gratitude éternelle là-dessus.
Merci, papa.
À l'INSEAD, c'est déjà que tu es mis dans des groupes de travail très très diversifiés où tu apprends énormément sur qui tu es, tes faiblesses, tes forces. On te dit tout de suite, tout le monde a des faiblesses et tout le monde a généralement tendance à travailler sur ses faiblesses et donc on devient juste médiocre là où on était faible, alors qu'il faut surtout se concentrer là où on est fort et devenir excellent. Et c'est comme ça qu'on fait des choses hors normes, en fait.
Tu travailles puisque là tu es accepté à EM Lyon. En parlant de financement, tu ne peux pas forcément avoir une bourse ou t'es boursier. Comment tu fais là pour payer ces études-là qui sont des études chères, hein, puisque c'est aux alentours de 15 000 euros, peut-être un peu moins à l'époque, mais comment tu fais pour payer ces études?
Pas de bourse. En effet, on n'a jamais eu vraiment de bourse. En termes de revenus, clairement, on aurait dû être boursier. Après, comme c'était mon père était indépendant, donc chef d'entreprise sur le papier, je crois que ce n'était pas applicable.
Ça faisait sortir des bourses-courses.
Donc, en effet, emprunt scolaire.
Pris une banque, donc?
Une banque, exactement. Et après, finalement, très vite, j'ai cherché aussi à gagner un tout petit peu d'argent parce que au-delà, en fait, je ne sais pas comment j'ai tenu. Pareil, en fait, parfois, il y a des mystères comme ça, tu vois. Mais au-delà du frais, en fait, la banque me permettait de payer les coûts d'inscription. C'est tout.
Et tout le reste,
je vivais avec 400 euros par mois.
Et pour logement,
nourriture, la vie de l'école, etc.
Oui, parce que la banque ne te prête que pour payer tes études, en fait.
Ouais. Et donc, voilà, c'était... je pense que c'est les années parmi lesquelles j'ai mangé le moins bien de ma vie, parce que tu ne fais pas non plus des repas de qualité avec ces trucs-là, avec ces montants-là. Mais du coup, ça m'a très vite emmené à envisager la junior entreprise, donc d'être le président de la junior entreprise.
Alors ça, c'est marrant. Donc, on va parler de la junior entreprise. Donc, c'est vrai que tu es devenu président de la junior entreprise. Tu as travaillé d'abord pour la junior entreprise. Alors, c'est vrai que c'est toujours assez étonnant dans les... Alors, peut-être qu'on va expliquer ce qu'une junior entreprise pour nos auditrices et nos auditeurs.
Alors, une junior entreprise, c'est une association étudiante qui mène des missions de conseil pour des grandes entreprises. Donc, par exemple, une entreprise souhaite savoir si son nouveau modèle de chaussures va être bien accepté, donc il doit faire une étude marketing, il peut passer auprès d'étudiants pour le faire.
Et donc, évidemment, c'est des étudiants souvent brillants qui vont être moins chers que si tu prenais un cabinet de conseil et qui vont justement répondre à un besoin qui est assez facilement définissable. Alors, moi, je le connais assez bien ça parce que Florence, mon épouse, quand elle est rentrée en école de commerce, a eu aussi le choix, qui est souvent le choix de différentes associations étudiantes. Tu as toujours évidemment le BDE, le bilan des élèves. Et puis, souvent dans l'AGE, mon épouse a fait comme toi l'AGE, parce qu'elle aussi, elle avait besoin de gagner de l'argent. Par mois, tu es arrivé à gagner combien d'argent?
En moyenne, je t'aurais dit sur l'année, à peut-être 400 euros de plus. Oui. Tu vois, par mois.
Donc, ça mettait un peu de... Voilà, ça te permettait de manger un
Exactement.
Tout petit peu mieux. Le financement des études est un sujet, moi, qui me touche énormément. Tu le sais, j'ai lancé un nouveau grand programme. Et c'est pour ça que merci de partager ça avec nous. Grand programme, justement, solidaire l'année dernière, qui s'appelle Infinite. Et tu aurais été l'exemple oui. parfait de ces jeunes qui sont brillantissimes, qui viennent de milieux populaires, ce qui est ton cas, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, chaque année, qui ont des mentions exceptionnelles au bac, qui sont malheureusement sous le seuil de pauvreté, ou en tout cas ont des grandes difficultés, et que, un, c'est très compliqué de trouver des prêts, et quand ils peuvent trouver des prêts, ça ne pourra en tout cas que couvrir une partie des faits de vivre ou que les études. Toi qui as dû avoir un peu moins que les autres, est-ce que tu trouves qu'il y a une vraie injustice sociale à ce niveau-là? Est-ce que tu vois, tu as vu autour de toi des gens qui n'ont pas pu faire ces études parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire?
C'est difficile de se projeter sur les cas particuliers de chacun. En revanche, moi, l'inégalité qui me touche le plus encore est celle de la connaissance. C'est-à-dire que d'abord, si je n'avais pas eu ce professeur Atala, je n'aurais jamais su que ça existait.
Et j'ai une prépa, tu veux dire, ne savais pas que ça existait.
Je ne savais pas que ça existait, j'ai appris ça en terminale. Ça, ce n'est pas normal. Et HDH, je trouve qu'il y a une vraie inégalité sur la connaissance des chances que tu as d'études après. Et une fois que tu sais, et bien en effet, avoir accès avec l'emprunt, moi je trouve que si tu as les deux éléments, et bien tu peux permettre à énormément de monde d'essayer de casser le plafond de verre social.
Et là, on parle d'ascension sociale. On voit bien que si tu n'avais pas été à UM Lyon, si tu n'avais pas fait une prépa à UM Lyon, tu n'aurais pas fait INSEAD, tu n'aurais pas créé une entreprise et tu ne serais pas aujourd'hui à la tête d'un des grands structures d'événements sur ces sujets de solutions innovantes pour la planète. Donc, on est d'accord, l'éducation est essentielle.
Oui.
Essentielle.
Oui, carrément.
Et autre point qui est essentiel chez Infinite, on travaille également aussi sur la communication, sur un sujet aussi important, sur le mentorat. Tu arrives à UM Lyon, tu n'as pas forcément les codes, tu n'as pas forcément les contacts. Comment rapidement tu te débrouilles pour faire les bons stages? Est-ce que tu vois qu'il y a aussi une inégalité entre toi qui venais d'un petit village à côté d'Orléans, ou est-ce que tu as réussi à trouver des chemins de traverse?
Mes premiers stages, je les ai eus très tard. J'étais à quelques jours de la date finale parce qu'en effet, je n'avais pas forcément les canaux pour les avoir très vite. Après, je m'en suis quand même bien sorti. Je pense que parfois, il y a de la chance, il y a d'avoir un bon dossier et tout. Finalement, en fait, j'avais deux offres de stage. Il y en avait une à Port Aventura, parce que je rêvais d'avoir un parc d'attractions aussi à un moment. Donc, Port Aventura. Et de l'autre côté, un travail au Luxembourg en compta de fonds, en comptabilité de fonds. Et finalement, j'ai choisi celle-ci.
Pourquoi tu as choisi celle-là? Parce que tu savais que sur le futur, c'était le paiement qui était plus intéressant?
Crédit Suisse, stage au Luxembourg. Pourquoi je vais là? Déjà parce que je sais que je voulais quand même maîtriser le côté finance. Les cours de finance en première année m'avaient beaucoup plu et je voulais aller un peu plus loin encore. Et puis après, tout simplement, en effet, c'est la première fois que j'avais, même en stage, un salaire. Je pense que c'est un salaire plus important que celui de mes parents en stage.
Ouais. Une fois diplômé, donc tu restes dans ce secteur bancaire, tu te rends compte que, un, ça paie bien, ça continue à améliorer ta connaissance du secteur, tu vas chez HSBC, mais après surtout tu intègres une équipe d'inspection générale au groupe Crédit Agricole. On n'est pas encore du tout dans cette finance publique puisque ça arrive plus tard.
Encore,
ouais. Toi tu te poses certaines questions, pas trop là encore une fois, tu dis juste je dois rembourser mes emprunts, je dois faire ce qui doit être fait, ouais. Et tu ne te poses pas trop de questions.
Alors pour donner un tout petit peu de perspective à ça, en effet, moi ce que je dis souvent c'est que le but de la vie c'est souvent de se retrouver soi-même, qui on était quand on était petit. Et que la vie nous emmène sur des chemins qu'on n'attendait pas forcément. C'est vrai que je pense le côté école de commerce, le besoin de devoir rembourser, etc., m'a emmené vers des chemins qui étaient beaucoup plus de l'ordre du pratique, du carriérisme. Et où à un moment, en fait, je m'étais dit la valeur que toi tu as, personnellement, elle dépend aussi de combien tu gagnes, de la valeur que tu peux avoir dans le côté méritocratie, comme on l'entend. Ça, j'ai tout déconstruit, on pourra en parler après, parce que j'en suis arrivé à déconstruire complètement ce modèle.
Combien de temps ça t'a pris de déconstruire ce modèle?
Ça m'a pris le temps de plusieurs échecs, principalement. En vrai, l'inspection générale, ça a été quelque chose qui m'a plu d'une certaine partie, parce que j'ai pas mal voyagé, j'ai découvert les pays de l'Est, j'étais sur la crise grecque au moment de la crise grecque, j'étais au moment des subprimes, etc. J'étais vraiment dans le cœur du truc et j'ai fait énormément de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme au moment où, pareil, c'était des sujets clés. Donc, tout ça, c'était bien. En revanche, j'ai très vite senti que je n'allais pas avoir du tout les mêmes perspectives que les autres parce que j'étais quelqu'un de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus... Et en fait, l'inspection générale, c'est du contrôle, avant tout. Et je me suis moins retrouvé là-dedans. Donc, j'ai vécu ces premiers 3 ans un peu comme un échec de ne pas avoir trouvé ma place. Et après, je me lance dans ma première start-up. Et la première start-up, on pourra y venir en détail, mais au bout de 3 ans, pareil, j'ai pas réussi à lui donner l'ampleur que je voulais. Et donc, coup sur coup, je me dis, et je commence à douter et à réfléchir beaucoup. Je passe par des périodes vraiment difficiles de confiance. Je dois me reconstruire à un moment sur moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie à ce moment-là. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment eu des reconstructions. Et une phrase qui m'est revenue, qui m'a vraiment beaucoup aidé à un moment, c'est une phrase toute bête, et je le dis comme ça, c'est Slimane, le chanteur Slimane, qui à un moment avait dit il y a des destins qui se font et des destins qui ne se font pas, mais ça n'enlève rien au talent de chacun. Et ça m'a apporté beaucoup d'apaisement, en fait.
Donc, merci Slimane. Merci Slimane, le poète. Donc là, tu nous parles de deux échecs que tu considères comme des échecs. Le premier est évident, le second est plus évident parce que c'est un échec concret. Le premier, c'est plutôt un échec de ce que tu dis, de ne pas avoir forcément... ne pas avoir été forcément aligné, mais est-ce que tu es vraiment aligné à ce moment-là? Tu as l'âge où tu dois rembourser un prêt, où tu as un intérêt, tu voyages beaucoup. Qu'est-ce qui te fait comme décider de partir? Penser à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un entrepreneur engagé, qui est le président de la fédération de rugby française, et qui s'appelle Florent Grill, et qui nous disait à ce micro-là, il comparait en rigolant l'entrepreneuriat à une envie de pisser, il le disait avec ses mots, qu'il y a un appel à un moment où on ne peut pas se retenir. Toi, c'est le cas?
Je tiens juste quand même à préciser que je l'ai vécu à ces moments-là vraiment comme des échecs, mais que avec le recul, en vrai, je suis conscient de tout ce que ça m'a apporté, et en vrai, je ne le vis plus du tout comme ça. Et ça, je pense que c'est important à le dire parce que certaines personnes peuvent peut-être se dire un échec, on le porte toute sa vie. En fait, pas du tout. Si on le digère, ça devient plus du tout un échec et on sait ce qu'on en a appris et la force que ça nous amène.
Justement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et c'est un très bon point. Tu sais, c'est Nelson Mandela qui dit « je n'échoue jamais, je réussis ou j'apprends ».
Exactement.
Là, qu'est-ce que t'as appris?
Moi, ça m'a appris... Alors déjà, c'est pas un échec dans le sens où ça m'a appris... énormément de choses sur la solidité du travail, tu vois, la structuration que tu peux avoir dans ta méthode d'audit, etc., de contrôle, c'est hyper structurant. J'ai appris énormément des autres cultures quand je suis allé, j'ai travaillé en Ukraine. Aujourd'hui, moi, ça me permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe dans les situations géopolitiques parce que j'ai passé plusieurs mois avec des personnes là-bas aussi. La Pologne et tout. Ça m'a surtout permis de rebondir et d'avoir l'honnêteté. Et c'est ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui me fait sortir de là? Le premier, c'est le fait que l'inspection générale s'est souvent rendue comme la voie royale au sein de la banque. Et quand je voyais en fait les parcours des personnes 5 ou 10 ans après, c'était des très beaux postes et en même temps, je me disais, c'est pas ce que je veux faire. Et puis, et là, ce qui m'a fait vraiment changer, finalement, c'est Rose, puisque tu verras, c'est quelqu'un qui revient échelonné, souvent me mettre dans le droit chemin. Rose me dit qu'elle sent un petit peu ma flamme s'éteindre un petit peu, et elle m'encourage à finalement oser autre chose, parce que j'avais beaucoup plus de force créatrice, et donc elle m'encourage à créer.
Donc là, on est en 2010, tu crées donc Quiz Tournament, une startup qui fournit des plateformes de jeux aux médias et aux sites web d'information. Donc là, on est bien loin de l'impact, on est bien loin de ce que tu fais aujourd'hui. C'est cette envie-là de créer, de construire quelque chose. Donc là, tu quittes quand même un bon salaire, une position confortable. Donc là, ce sujet, toi, de se séparer des menottes dorées, tu as réussi à le faire. Tu étais seul fondateur, tu avais un autre cofondateur?
J'étais seul fondateur. D'accord. Et c'était une expérience extrêmement dure. Ouais. Souvent, qu'on me demande aujourd'hui quel est le conseil que tu peux donner à un entrepreneur, c'est ne partez jamais seul. Essayez d'abord de trouver une personne avec qui vous pourrez porter le projet. Et pour moi, c'est clé.
Comment tu fermes? Parce que ça aussi, pour un entrepreneur, c'est très compliqué d'enlever la prise.
J'avais pas mal foncé pendant 2 ans. J'avais mis énormément d'énergie. des discussions avec des investisseurs, etc. J'étais déjà dans le rouge et un investisseur me dit « Bon, va falloir peut-être mettre la seconde, tu vois. » Et là, je sens que c'est le truc qui m'a fait aussi péter un peu intérieurement, tu vois.
Tu avais levé des financements auprès d'investisseurs ou
un petit peu, oui, en seed.
En amorçage, c'est-à-dire au tout début, pour arriver à démontrer que tu avais un vrai produit, que tu pouvais peut-être générer un peu de revenus. C'est
ça. J'étais allé chercher auprès d'amis de l'EM Lyon, etc., plus un business angels. Et puis après, voilà. Là, je sens que j'y arrive plus, tu vois, parce que j'ai déjà tout donné, on ne voit pas du tout les efforts, etc. Donc, grosse désillusion. Et petit à petit, en fait, il y avait vraiment la question... de savoir ce que j'allais faire de mon avenir. Est-ce que je repars sur 3 ans, je relève et on repart, ou est-ce que j'arrête tout? En fait, c'était ça la question. Et conseil extrêmement bon pour le coup de mon BA, qui me dit, écoute, l'actif le plus important, là, c'est toi. Et donc, fais ce qui est le plus important pour toi. Okay. Et ça tombe bien parce que moi, justement, à ce moment-là, je nourrissais depuis toujours. Hein, si j'avais fait l'EM Lyon, je nourrissais déjà un rêve d'aller plus loin et d'aller faire un 3e cycle d'études plus tard et un MBA.
Tu reparles de tes moments quand tu voyais sur Capital, Stanford, Harvard et autres.
Et pour faire ça, en fait, il y a une limite d'âge. Et je m'étais dit, en fait, si j'y vais, c'est maintenant. Et encore une fois, Rose me dit, si t'y vas, c'est maintenant. Donc, vas-y à fond. Et c'est comme ça qu'on fait le switch.
Alors, merci Rose, merci ce business angel parce qu'il était prêt à tout perdre, parce qu'il a tout perdu, hein, pour que tu arrives à t'accomplir, en tout cas à t'aligner avec ce qui était important pour toi à ce moment-là. Je te retrouve sur les bancs donc, du MBA de l'INSEAD. L'INSEAD, c'est un des meilleurs donc, MBA, donc on est en 3e cycle. C'est après l'école, là tu peux aller refaire entre 12 et 24 mois d'études. L'INSEAD, c'est à Fontainebleau, c'est en France, Cocorico, c'est une des meilleures écoles en MBA au monde. Tu cherchais quoi dans ces décisions-là?
Déjà, c'est que c'est vrai que j'étais mû au fond de moi d'aller au bout de cette démarche et je disais et souvent j'étais peut-être pas, j'avais pas encore complètement déconstruit peut-être ce côté de hiérarchie, mais je m'étais dit j'aimerais être des meilleurs dans le monde sur le côté business, etc. Et donc pour ça, il faut que j'aille faire les meilleures études possibles et tout. Et l'INSEAD nourrissait aussi un petit peu ça. Mais on y reviendra peut-être dans les prochaines minutes. Mais l'INSEAD m'a surtout permis pour moi de retrouver complètement confiance en moi. C'est surtout ça. Et moi, j'ai vécu l'INSEAD comme le ticket d'une deuxième chance dans la vie, en fait. C'était une de mes plus grandes joies. Quand j'ai su que j'étais pris à l'INSEAD, c'est une de mes plus grandes joies parce que ça me permettait de me dire « Ok, tu as peut-être fait des choix qui ne t'ont pas du tout mené. Ma première partie de vie ne ressemblait absolument pas à celle que j'espérais. » Parce que forcément, moi, j'avais... j'imaginais peut-être beaucoup mieux.
Plus rapidement, plus haut.
Rapidement, plus... exactement. Mais là, tu as un ticket pour remettre les choses à plat. Et c'est un nouveau départ.
Tu crées avec tes camarades le TED Talk de l'INSEAD. Et c'est là où tu as commencé à avoir des gens de TED Talk. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ça peut arriver encore. Ouais. Tu nous racontes un peu.
Alors, TED, c'est un format de conférence où on a des intervenants qui, dans des formats assez courts, 15-18 minutes, viennent avec des idées juste... incroyable, sensationnel, et elle les partage déjà à une audience. Et après, tout ça est filmé. C'était quasiment, je pense, les premiers qui devaient filmer toutes leurs conférences et les diffuser en ligne, et parfois avec des vidéos qui faisaient plusieurs millions de vues sur certaines conférences courtes. Et donc, TED avait créé des licences. On pouvait postuler pour essayer de créer une petite branche de TED. Et moi, j'étais venu à l'INSEAD en disant « Je vais créer les TEDx de l'INSEAD ». Je pense que j'avais déjà cette fibre aussi qui s'est renforcée parce que c'est vrai que j'ai pas encore dit ce mot là dans cette première partie d'interview, mais j'avais cette fibre humaniste extrêmement forte et je m'étais dit TED pour moi c'est la manière de continuer à nourrir cet humanisme sur le campus d'une grande université comme celle-là.
Mais tu me parles de cette fibre humaniste, c'est vrai que c'est peut-être ça qui te rendait triste, et c'est que tu l'avais mise complètement de côté pendant 6 ans en fait.
Je pense, ouais.
Ah, c'est pas dur, c'est que c'est une évidence.
Oui.
Mais parce que moi, je le vois quand j'étais plus jeune, mais encore plus jeune que ça, quand je voulais réussir, je m'étais dit, il faut que j'ai de l'argent. Ah, tu vois, mon principe, quand je me retrouve à 17, 18, 19 ans, à 20 ans à être entrepreneur, je me dis, il faut que j'ai l'argent pour faire quelque chose avec, hein, pour me donner une liberté, pour pouvoir protéger les gens que j'aime. Mais toi, c'était un peu ça, c'est que tu t'es dit rapidement, je vais réussir parce que j'entends ton point sur l'entrepreneuriat.
Bien sûr.
Réussir grand, voir un gros chemin. Là, tu n'avais pas forcément la possibilité de faire tout en même temps.
Non, c'est vrai que sur les deux premières expériences, je te dirais, l'objectif était de gagner de l'argent. Il y avait une question d'opportunité de marché. Et c'est vrai que dans ce que j'ai créé après, ces questions-là d'opportunité de marché et d'argent étaient absentes. Et c'était qu'est-ce que je veux délivrer pour le monde, en fait.
Ouais, non, merci de le dire de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un chemin unique. Enfin, nos chemins, ils sont cabossés, ils ne sont pas linéaires. Et tu es un exemple, j'en suis un autre. Hein. Et justement, c'est l'assumer qui fait qu'on va être un peu plus épanoui. Là, tu te retrouves à l'INSEAD et là, tu te dis, là, j'ai un deuxième ticket, j'ai cette possibilité. Donc, ouais. Là, tu fais... Et donc, quand tu fais ces TED Talk INSEAD, là, tu rencontres des gens qui t'allument une autre lumière dans ta tête. Tu dis juste, waouh. C'est là où tu vois les premières solutions un petit peu plus portées.
C'est là que je vois les deux, les solutions. Il y a deux choses qui se passent à l'INSEAD. C'est déjà que tu es mis dans des groupes de travail très, très diversifiés, où tu apprends énormément sur qui tu es, tes faiblesses, tes forces. On te dit tout de suite, écoute, tout le monde a des faiblesses. Et tout le monde a généralement tendance à travailler sur ses faiblesses. Et donc, on devient juste médiocre là où on était faible, en fait. Alors qu'il faut surtout se concentrer là où on est fort et devenir excellent. Et c'est comme ça qu'on devient, qu'on fait des choses hors normes, en fait.
Et toi, t'es bon, t'es fort où, toi ?
Moi, je suis fort dans le côté créatif, à créer une vision, tu vois, d'un projet. Je suis fort dans naviguer dans l'incertitude. J'adore quand l'incertitude totale. Et ensuite, je suis très bon à avoir une pensée intégrative, tu vois, en fait, avoir des choses complexes, à voir les choses en termes de grande masse et de puzzle. Et donc, voilà, ça permet de naviguer là-dedans.
Donc là, tout ça est assez connecté avec le projet que tu vas construire, en tout cas.
Exactement.
Ça va mûrir durant cette année.
C'est ça. Et donc, les TEDx me font dire il y a des très beaux projets et en même temps des très belles idées. Mais qu'est-ce qui se passe après avec ces idées ? Il faut aller au-delà et vraiment faire quelque chose autour de ceux qui portent des solutions concrètes et les aider à vraiment passer à l'échelle. Et moi, je me dis, moi qui, si je voulais être entrepreneur en sortant de l'INSEAD, j'aimerais être entrepreneur soit pour, à l'époque, c'était soit pour dépolluer l'océan, soit pour aider les réfugiés, faire de l'économie circulaire. Et en même temps, je ne sais pas où trouver mes pairs, je ne sais pas où trouver mon accompagnement, mes financements, etc. Et donc, il faut réussir à créer, il faut penser écosystème. Et pendant l'INSEAD, justement, j'avais fait un voyage à la Silicon Valley. On avait fait un field trip, un voyage d'école, où on a découvert vraiment les coulisses un peu de la Silicon Valley. Je me dis, mais en fait, c'est incroyable cette force d'écosystème. Tu vois, que ce soit la Silicon Valley, il y avait un écosystème. Que ce soit la Renaissance à Florence, il y avait un écosystème. C'est pas des cas uniques. Et donc, comment est-ce qu'on crée et on nourrit un écosystème? Et donc, j'ai commencé à me plonger aussi sur ces questions-là, à voir quelles sont les forces qui nourrissent tout ça, et à essayer de recréer ça dans un temps donné, à travers un événement qui serait le plus grand rassemblement mondial des acteurs pour la planète.
Venu de plus de 120 pays, parties prenantes, solutions concrètes pour la planète, ça c'est l'objectif que tu as, que tu te donnes. On va s'arrêter de nouveau pour écouter une autre pause amicale. On l'écoute.
Bonjour Santiago, c'est Caco. Auto-charmeur que tu as invité l'année dernière à Change Now dit, à propos du futur, qu'il est une possibilité qui te regarde et qui compte sur toi pour se manifester. Je me souviens de ce jour où tu m'as présenté ton idée de Change Now sur 3 slides. Tu es parti de rien, juste de cet appel, et tu l'as créé exactement à l'image de ce que tu avais visualisé. Peux-tu nous parler de ce moment où le futur t'a appelé ?
Message d'une amie, Caco, qui est coach au sein de la Convention des entreprises pour le climat. Mm-hmm. Et alors, c'est une belle question, ça.
C'est une belle question.
Le futur t'a appelé. Ouh.
Ouais, c'est pas mal. Hein,
ah, c'est pas mal, j'aime bien, moi.
Le futur m'a peut-être appelé. Moi, je sais que, tu vois, quand tu lis, par exemple, les livres de Paolo Coelho, l'alchimiste. D'ailleurs, l'alchimiste, le personnage s'appelle Santiago, donc c'est un livre de cœur pour moi. Il dit... lorsque tu veux vraiment quelque chose, l'univers conspire à ce que ça se réalise. Ça peut paraître facile comme ça, mais a posteriori, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. En fait, j'avais une vision, à mon avis, tellement claire, certaine de ce que je voulais faire et qu'il fallait que ça se fasse. En fait, c'était un projet trop beau pour pas qu'il se fasse. Et qu'il fallait tout mettre en œuvre et que... et c'est, en fait, c'était cette certitude-là qui m'a nourri.
Donc, parce que cette certitude existe, parce que tu penses que ça ne peut pas ne pas exister, tu penses que c'est le destin aussi? Tu crois au destin, en fait, cette question-là, c'est... Est-ce que tu crois au destin, toi?
Tu le forces forcément toujours un petit peu. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est... Enfin, ce que je le dis pas souvent, pardon. Ce que je pense
souvent
c'est que quand tu as des... quand tu as des objectifs, en fait, on peut tous vraiment à réussir à faire de grandes choses. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas seulement travailler sur réaliser la grande chose, mais il faut surtout travailler à créer les conditions pour que cette grande chose puisse exister. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, ChangeNow, on a travaillé sur le concept aussi, mais on a surtout travaillé à faire en sorte de rassembler suffisamment de personnes qui croient aussi dans ce qu'on va réaliser pour que ce soit une émanation commune, tu vois. Et c'est la somme de tout ce que tu mets qui se réalise.
Donc là, on est en 2016, tu suis cette ambition, donc suite à tes études, vous créez donc ChangeNow, cette fois-ci, tu ne le crées pas tout seul, tu le crées avec deux cofondateurs, dont
mon épouse, Rose.
Ton épouse, Rose. Donc on parlait d'association tout à l'heure, tu disais, oh là là, cette fois-ci, je ne vais pas le faire deux fois. Là, tu ne t'es pas posé une seconde la question, tu as dit, il faut absolument que je m'entoure.
Je suis resté vraiment fidèle à cette question de ne pas y aller seul. Et j'avais l'idée, j'avais testé un peu le terrain, j'en avais parlé à des personnes. Une autre amie de l'INSEAD, qui est la première, Claire-Élise, qui était la première à me dire, franchement, ton idée, ça me dépasse un peu, mais je vais bien l'explorer avec toi. Et ce renforcement-là a commencé à me faire travailler dessus, en me disant, c'est bon, je ne suis pas seul, j'ai le ticket pour y aller. En fait, après, c'était vraiment juste du ping-pong, mais au moins, je n'étais pas seul à juste réfléchir dessus. Et puis, au fur et à mesure, j'en parlais. En fait, j'ai juste essayé d'en parler au plus de monde possible pour ne pas sentir que j'étais seul. Et puis, finalement, malgré tout, il me fallait vraiment quelqu'un, un co-founder plus solide. Et là, on a plusieurs choses qui se passent, puisque... donc, pour la petite histoire, moi, j'avais travaillé post-INSEAD, j'avais quand même trouvé un petit job à côté dans une boîte qui s'appelait Rue de Baguette. C'était un média qui faisait aussi des événements dans le monde de la tech.
Comment s'appelait le...
Liam,
d'accord. Ouais.
Et donc, j'avais rejoint cette start-up.
C'est un média, hein, c'était un média qui écrivait donc sur l'actualité tech française.
Exactement, et qui avait des événements. Et comme moi, j'avais déjà en tête aussi cet événement mondial, je me dis, je vais voir comment d'autres font ça. Malheureusement, l'entreprise ferme en juin 2016. Et en juin 2016, il y a aussi la naissance de notre premier enfant. Et donc, on part en road trip. En fait, on s'était déjà dit, on ne veut pas que ça change forcément nos envies d'exploration d'avoir un enfant. Donc, avant même la naissance, on savait qu'on partirait en road trip avec le bébé. Et donc, quand il avait 40 jours, on part 40 jours sur la route à la rencontre de plein de personnes qui ont aussi fait des choix pour leur destin de liberté. Et pendant tout ces mois, moi, je parle de plus en plus de ChangeNow à Rose. Je lui montre les premières slides que j'avais préparées, sur lesquelles je travaillais.
Et elle commence à être un peu intéressée.
Ouais, et puis elle se dit, vas-y, faut qu'on le fasse. Et donc, c'est comme ça qu'on est partis ensemble. Quelques mois plus tard, elle quitte son job. On se retrouve à deux full-time. Je commençais à en parler aussi après à Kevin Taïebali, que j'avais rencontré à l'INSEAD. Et quelques mois plus tard, Kevin nous rejoint. Et on crée comme ça le trio. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais allé en visite au Père Lachaise. Et là, j'avais réfléchi à mon épitaphe. Je me suis dit, j'aimerais qu'il y ait marqué... Ah, ça tombe bien, je commençais à fatiguer. Et en fait, mon alignement dans la vie, c'est d'avoir vraiment tout donné et d'avoir dit, ok, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais.
Vous peinez à trouver quand même les financements, les partenaires. Vous mettez toute votre économie pour louer la station F pour la première édition. Vous ne trouvez aucun financement. C'est compliqué et ça me fait penser à ce que je mets dans mon livre Pause pour une vie alignée. Le côté, le célèbre, le fameux tu ne réussiras pas. Et d'ailleurs, tu le cites hein, dans une interview, tu dis, c'est aussi ça l'aventure entrepreneuriale, avoir la conviction profonde que ce que l'on fait a un sens, même quand tout le monde vous dit exactement le contraire. Alors, moi, je l'ai entendu moi-même, hein, souvent, et beaucoup de gens autour de moi qui ont été à ce micro-là l'ont entendu aussi, le « tu ne réussiras pas oui. » parce que tu viens pas du bon endroit, parce que tu n'as pas la bonne couleur de peau, parce que tu n'as pas eu des bons résultats à l'école, parce que ton physique, parce que... C'est important de bien le préciser, c'est que voilà, tu ne dois pas forcément écouter trop longtemps et trop longtemps. Il faut écouter, parfois il y a des choses raisonnables dans ce qui est dit. Mais en gros, il faut quand même arriver à dépasser ça. C'est quoi, par toi, ton comportement auprès des gens qui l'ont dit, parce que tu l'as entendu très souvent, toi, le « tu ne réussiras pas ». T'écoutes, tu mets les écoutilles et tu dis juste « ils ont tort ».
Ça dépend, en fait. C'est comme tu dis, je pense qu'il faut écouter, avoir une analyse quand même de ce qui se passe. Parfois, tu peux sentir... En fait, il faut surtout savoir ce que ça fait en toi. Moi, je suis quelqu'un d'assez intuitif. Et parfois, quand quelqu'un me dit quelque chose, je me dis, OK, là, il y a peut-être en effet quelque chose qui n'est pas encore correct et il faut le rectifier. Mais généralement, la manière que j'ai, moi, c'est de me dire, de toute manière, il faut avancer avec ceux qui y croient. Au début, il faut avancer avec ceux qui y croient. Il ne faut pas forcément s'embêter à convaincre tout le monde. On ne va jamais y arriver. Avançons avec ceux qui y croient, on va aller beaucoup plus vite et dès le début. Et autre chose, parfois aussi, il faut quand même écouter sa propre voix intérieure. Moi, je sais qu'on avait eu un rendez-vous avec Rose, avec quelqu'un qui faisait beaucoup d'événements, qui voyait qu'on avait 0 € et tout à quelques mois de l'événement. Ils disent, franchement, arrêtez tout bout. Vous n'allez pas y arriver, etc. Et Rose me demande en sortant, bon, t'en as pensé quoi? Et moi, réponse était, ils n'ont rien compris, on a le vent en poupe. On a le vent en poupe, ça va bien se passer, etc. Parce qu'au fond de moi, j'avais déjà les petits signaux faibles qu'on était en train de cristalliser tout ce qu'on avait travaillé. Et ces signaux faibles-là, vu de l'extérieur, les personnes ne le voient pas forcément. Donc, il faut aussi avoir confiance en ces petits signaux faibles qu'on est les seuls à pouvoir percevoir.
C'est un très bon point. Les signes faibles, c'est essentiel et c'est pas forcément facile à voir. Ouais. Donc là, t'as pas l'argent, station ouais. F, tu ne sais pas comment payer, il se passe quelque chose, l'alignement des étoiles. On est en 2017, Trump sort des accords de Paris et là, c'est l'effet domino.
Ouais. Non, il y a des moments comme ça, en effet, et juste pour te dire où ça va pas, on était avec notre fils qui était à l'hôpital et tout, enfin, on avait 0 € et je me souviens de ce moment-là où on était en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et pendant qu'on est à l'hôpital, on reçoit le coup de fil de notre premier partenaire qui dit « Mais on va venir, mais qu'à la moitié du montant qu'on vous avait dit, on ne peut pas faire mieux. » Donc moi, pareil, je déprime un peu. Et Rose qui me dit « Mais non, c'est notre premier partenaire. »
C'est déjà ça, c'est déjà
exactement.
Ça. Le verre à moitié plein.
Et donc très vite, la French Tech rentre dans le jeu. On a un effet boule de neige qui se fait, ce qui fait qu'en l'espace de même pas un mois, on arrive à trouver le financement. On sort une première édition, septembre 2017. Qui est juste magnifique parce qu'on a des échos énormes. On a 2000 personnes qui viennent, déjà assez internationales. Il y a des personnes qui nous disent « Je suis bluffé parce que je pensais que des événements comme ça étaient l'apanage, étaient le privilège de la Silicon Valley. Et donc voilà, on réussit à faire ça. Et là, on se dit « Vas-y, on est sur un bon trend, on lâche rien, on se bat à fond et on fait une deuxième édition avec 6000 participants. Et après, on a un grand saut. »
Avec le Grand Palais.
Avec le Grand Palais.
Mais avant, tu vas nous en parler du Grand Palais, mais pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui Change Now, c'est quoi le pitch peut-être à la première édition et c'est quoi aujourd'hui?
Alors à la première édition, c'était, le pitch était de dire que un peu partout sur la planète, il y a des entrepreneurs qui sont en train de développer des super solutions pour les grands enjeux environnementaux et sociaux dans notre monde. Et que pour les faire passer à l'échelle, on a besoin de rassembler autour d'elles des financeurs, du soutien médiatique, du soutien politique. Et donc, on crée cette plateforme qui va permettre de propulser ces solutions au niveau suivant. Ça, c'était le pitch à l'origine. On se rend compte qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus que ça. Entre-temps, voilà, et ça va sûrement reboucler avec le Grand Palais, il y a eu un moment où on a vraiment fait un switch important, qui est qu'on est passé de ce côté purement entrepreneur, à un côté, parler même d'un imaginaire sociétal plus grand. Et pourquoi on a réussi à aller au Grand Palais? C'est parce qu'on est allé les voir en leur disant, il y a 150 ans, il y avait la révolution industrielle. Et pour accélérer la révolution industrielle, on avait créé des super vitrines à l'époque qui étaient les expos universelles. Mais là, on est 150 ans après, en train de vivre une nouvelle révolution qui est environnementale et sociale. Et on veut revenir ici sur les traces de l'expo 1900 pour créer la première expo des solutions pour la planète. Et Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime aujourd'hui. Tu vois, quelque chose qui va porter les solutions, les entrepreneurs, mais qui va incarner finalement une vision d'un avenir auquel on peut tous adhérer sans avoir peur.
Ils achètent tout de suite le Grand Palais ?
Ouais.
Qui là-bas ?
Marie-Laure et Juliette.
Merci à elle, parce qu'il faut quand même voir trois entrepreneurs arriver, leur proposer quelque chose. Nous, aujourd'hui, ça paraît évident, c'est toujours facile de le dire après quelques années après, dire évidemment, exposition universelle de ces solutions-là au Grand Palais, qui est un endroit exceptionnellement beau. Tout ça paraît très évident, quelques années après.
Bien sûr, c'était un pari. Bravo à elle, en effet, parce que c'était un pari. On sort de Station F, qui fait 2000 mètres carrés, à avoir...
20 000, 25 000
15 000.
15 000.
Mais c'est 7 fois et demi. Il faut qu'on le fasse en un an. On est 4 et demi dans l'équipe et on ne sait absolument pas comment on va faire.
On est en 2017-2018, là c'est en 2020, mais je me souviens bien en 2018, à ce moment-là, on poussait beaucoup cette vision du sens, du partage. Mon livre à l'époque s'appelait « La révolution du partage », c'était vraiment ça. C'était dans ces années-là, on a commencé à se rencontrer, où on avait une vision qui n'était pas, on va dire, partagée par tout le monde. Cette quête de sens. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas une minute, il n'y a pas un instant, il n'y a pas une instance quand on ne parle pas de sens, de partage. Toi, tu l'as vu aussi avec le sourire, a évolué de plus en plus. Ça s'est levé en poupe. Tu parlais tout à l'heure, on parlait ensemble de destin. Est-ce que toi, ce vent-là, il est dans tes voiles aujourd'hui?
Oui. Après, je dirais, il y a encore beaucoup d'endroits où on peut encore en parler.
Améliorer. Ouais. T'es politiquement correct, j'aime bien. On va dire que c'est qu'on est quand même, il y a encore, on va dire, une majorité qui doit changer de vocabulaire, c'est ça que tu dis.
Oui, oui, voilà, la quête de sens. Et c'est pas une évidence pour tout le monde. Et c'est normal, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je suis aussi en train de porter ça parce que j'ai eu un énorme parcours qui m'a mené à ça. Mais d'autres personnes n'ont pas forcément eu ces parcours de vie encore.
Tu penses que tu aurais grandi, pour être plus clair, tu penses que tu aurais grandi dans le 7e arrondissement de Paris, tu n'aurais pas forcément eu, dans des conditions qui n'étaient pas aussi difficiles que les tiennes, tu n'aurais pas forcément vu ça comme ça?
Non, c'était pas forcément ça. Je veux dire que je pense que si j'avais très bien réussi, par exemple, l'inspection générale et que j'étais devenu directeur dans mon couloir, si j'étais resté dans mon couloir de course, finalement, j'aurais pu me dire, OK, j'ai tout le confort dont j'ai besoin dans cette vie et j'ai pas besoin d'aller me réaliser ailleurs.
Parlons de gens qui ont eu des expériences exceptionnelles. Tu en reçois très souvent sur les plateaux de Change Now, des activistes, des journalistes, des explorateurs, des dirigeants de grande instance. Il y en a deux qui t'ont particulièrement marqué, Satish Kumar et Jane Goodall. Pourquoi ces deux-là? Parce que vous avez à chaque année des gens exceptionnels.
Parce qu'en fait, il y a une chose qui les caractérise, c'est qu'ils n'ont aucune barrière. Et ils n'ont absolument pas peur de mettre en avant leur humanité. En fait, ce sont des personnes qui sont à 100% humaines. Et tu vois, et moi, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des mots qu'on a du mal à dire. Par exemple, parler d'amour, il faut s'aimer, il faut avoir de la compassion. C'est des mots qui peuvent paraître parfois hors sol. Et pourtant, eux, ils en parlent et ça touche au fond du cœur, tu vois.
Tu penses qu'ils en parlent parce qu'ils sont un peu plus âgés et qu'ils peuvent en parler aussi plus facilement à ce moment-là? Tu penses que ça joue aussi?
Peut-être, mais en tout cas, ce sont des personnes qui, à travers ce qu'elles transmettent aujourd'hui à leur âge, parfois je me dis, quand je serai vieux, j'aimerais bien être comme
ça. J'aimerais bien être comme Satish. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas Jane Goodall, je pense que beaucoup de gens la connaissent, pour ce qu'elle a pu faire pour la planète en particulier, pour les grands singes d'Afrique. Satish est un peu moins connu, si tu veux parler d'un peu Satish Kumar, qui est une personne exceptionnelle, qui était avec nous à notre grande soirée EPIC à Londres, EPIC, l'organisation que j'ai créée, la fondation que j'ai créée il y a quelques années de ça, et qui est une personne exceptionnelle. Et je l'ai vu pendant l'événement, les gens étaient plus que charmés. T'as raison, beaucoup de personnes disent « j'aimerais bien être dans quelques années Satish ».
C'est ça, ce sont des porteurs de paix. Pour moi, les deux, c'est ce que... Il y a certaines personnes comme ça que je dis, ce sont des lumières dans le monde, tu vois, des lumières vivantes. Je sais que Mandela m'avait fait cet effet-là aussi quand je l'avais vu parler à des endroits et tout. Ce sont des lumières vivantes. Et autant, j'allais te dire... Je n'ai pas forcément... Moi, je n'ai jamais grandi avec des idoles. Je n'ai jamais eu vraiment de rôle modèle. Si ce n'est, en fait, à travers ces personnes-là où je me dis, j'ai un rôle modèle de qui je veux être quand j'aurai 80 ans. Voilà.
C'est cool. Là, on parlait des gens que tu as pu rencontrer, que tu as pu interviewer. Les solutions que vous en avez beaucoup, cette année, vous avez combien de solutions ?
Chaque année, c'est à peu près 1000 solutions qui sont présentées.
Est-ce qu'il y en a une qui ressort ?
Alors, moi, c'est plus des histoires qui vont avec, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des histoires entrepreneuriales derrière qui me touchent aussi. Et il y en a une qui est... alors, c'est les équipes de Lightyear One. Lightyear One, ils font une voiture aujourd'hui qui cherche à être complètement autonome grâce au solaire. Ça a commencé comme un défi étudiant d'essayer de traverser l'Australie avec un petit véhicule solaire. Et de là, ils ont commencé à bosser, à bosser, à bosser. Et là, ils commencent à faire des premiers modèles de voitures électriques qui ne sont pas complètement autonomes, mais qui permet, grâce au solaire et au fait que c'est une voiture ultra légère, de gagner énormément en autonomie. Donc, ils n'ont pas besoin de recharger aussi souvent. Et je me dis, tu vois, moi, je trouve ça chouette parce que ça part encore une fois d'une idée un peu... on teste quelque chose, on se prend de passion pour ça, on le développe et on fait des choses qui sont... que des personnes, comme dirait Steve Jobs, que des personnes en jean ne devraient, enfin, peuvent faire vaciller, enfin, des personnes en jean peuvent faire vaciller des industries.
Non, donc, c'est les parcours qui t'intéressent ici. Un autre sujet d'actualité important qui est le sujet des agriculteurs, c'est un sujet majeur, puisqu'il y a une grande discussion qui a lieu depuis des années maintenant, mais qui s'est accélérée. C'est les agriculteurs d'un côté, et puis une démarche parfois des écologistes qui parfois veulent des solutions qui ne sont pas forcément pertinentes. Comment toi, tu te situes dans cette situation-là ? Comment tu l'as gérée dans ton événement ? D'un côté, des solutions, d'un côté, et de côté, les gens disent « Ouais, mais tout ne peut pas être à travers des technologies, il y a aussi des choses qui doivent être plus basiques. » Comment tu arrives à trouver un équilibre, une balance ? Et comment toi, tu vois ce monde-là ? Est-ce que tu comprends assez bien, assez facilement cette discussion, ou cette discussion qui n'a pas toujours lieu, justement, entre ces deux communautés ?
Alors, premièrement, je dirais qu'en effet, il faut bien avoir en tête que par rapport à la transition qu'on doit opérer, pour moi, je dis qu'il y a souvent trois transitions à faire en même temps. Il y a la transition énergétique, la transition agricole et la transition culturelle aussi. Et très vite, pour passer sur celle-ci, c'est que si on ne change pas aussi nos manières qu'on a tu vois, notre échelle de mérite, notre manière de respecter l'autre ou de respecter la nature, tous nos innovations vont être court-termistes. Donc, c'est vraiment ces trois-là. Et donc, l'agriculture, en effet, est une transition hyper importante. Et ça, nous, on le porte depuis longtemps. Hein. Et je ne suis pas sûr qu'il faille justement aller dans le sens où il y a une opposition entre monde agricole et monde écologique. En fait, écologistes, souvent, les deux sont clairement imbriqués, parce que l'agriculture et le travail du vivant et de l'écologie et de notre périmètre écologique, quelque part.
Non, mais là, tu dis ça, mais tu vois bien que c'est le cas. Pourtant, il y a une opposition forte sur ces sujets-là. En tout cas, ce n'est pas si simple que ce que tu me dis là.
Non, mais parce que je pense que parfois, ça peut aussi être instrumentalisé, mal compris. Je pense que nous, à travers ChangeNow, on a aussi un rôle qui est de dépolariser parfois la société et de faire parler des personnes ensemble. Tu vois, et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tu vas du côté de l'agriculture biologique, moi je dirais, elle n'est pas suffisamment soutenue. Tu vois, on pourrait vraiment avoir, il faudrait avoir un soutien beaucoup plus fort de l'agriculture biologique. Et je pense que ce soutien financier permettrait d'avoir déjà, on va dire, de réduire certaines peines que le monde agricole a aujourd'hui, parce que le bio est en grave crise et il faut vraiment l'accompagner à court et sur le long terme. L'agriculture régénératrice, c'est quelque chose de passionnant. Et là, je dirais pareil, il y a des innovations technologiques, mais les plus grosses innovations qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'agriculture, c'est sur notre connaissance de la science des sols. Et on se rend compte que la manière dont on pensait qu'un sol fonctionnait sur les derniers millénaires, finalement, n'est pas la bonne, n'est pas la vraie manière. Donc, il y a une vraie révolution scientifique là-dessus, de connaissance. Et donc, c'est comment est-ce qu'on travaille mieux pour que nos sols ne s'épuisent pas. Et finalement, c'est remettre aussi des considérations de long terme. Mais en effet, dès qu'on parle de long terme, tu as un gap qui se crée entre des problématiques court terme. Bah, il faut bien vendre et faire vivre sa famille, faire vivre sa ferme, etc. Et des problématiques long terme. Donc, je pense que c'est là où il y a un vrai travail à faire sur les aspects politiques, à mon avis, qui est de comment est-ce que tu crées le pont entre les deux.
Revenons à Change Now. En 2020, les Échos, le groupe Les Échos, prennent une part de position importante, on peut dire un rachat, puisqu'ils ont plus de 50% du capital. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, on est assez tôt dans ta trajectoire, puisque vous commencez en 2016, vous commencez à avoir cette croissance, l'accord avec le Grand Palais arrive. Pourquoi? Pour toi, c'était aussi de démontrer que tu avais raison.
On fait nos deux premières années complètement avec nos petits moyens. Pas de salaire, en fait, on a rien gagné. On est vraiment allé. Moi, je suis allé jusqu'au bout des derniers centimes que je pouvais avoir sur mon compte quasiment. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on fait nos deux premières éditions. Et là, on a ce saut au Grand Palais. Et opérer cette croissance-là, c'est-à-dire que c'est un x7 en un an, je disais tout à l'heure. Ça ne peut se faire que de deux manières, je me disais. La première, c'est qu'il nous faut un partenaire média, parce qu'il faut le remplir, le Grand Palais. Il faut vraiment qu'on soit meilleur sur les partenaires médias. Et deuxièmement, il va falloir du financement, parce qu'il va falloir recruter, renforcer nos équipes, faire des avances de fonds importantes, parce qu'il faut payer en avance les lieux, les produits, la production, etc. Donc, on a besoin de ça. Et on commence à avoir des négociations d'un côté avec des partenaires médias, et d'un côté avec des fonds d'investissement de l'impact. Et au fur et à mesure, on reçoit une proposition qui est la meilleure des deux propositions confondues. C'était mieux que ce que proposaient les fonds d'impact et mieux que ce que proposaient les autres partenaires médias. Et donc, on se dit, pourquoi pas considérer, à l'époque, on était encore dans la considération. Et en fait, ce qui a fait qu'on y aille, c'est qu'à un moment, on s'est posé la question. On ramène toujours ça à l'impact en se disant, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? Soit on reste complètement indépendant, on fait peut-être une rentrée très minoritaire avec un fonds d'investissement, mais à 18 mois, il faut tout recommencer, on n'a pas de visibilité au-delà d'une édition, et donc on ne sait pas ce qui se passe après. Soit on rentre dans un investisseur plus industriel, comme on dit, ils sont rentrés à 55. Et là, on a de la visibilité, au moins pendant 5 ans. On sait que pendant plusieurs années, on va pouvoir avoir de l'impact sur ce qu'on fait. Et donc forcément, notre décision d'impact, elle va de ce côté-là.
Est-ce que tu te poses la question, enfin plutôt quelques années après, tu dis, est-ce que tu aurais dû attendre un petit peu? Tu aurais dû encore continuer? Tu aurais peut-être pas pu atteindre les objectifs que tu as atteints après? On se souvient, c'est la période Covid. Donc le monde aurait été certainement différent. Est-ce que tu penses, il faut jamais, c'est toujours facile de regarder par le passé en disant, j'aurais dû ou pas. Toi, avec un peu de recul, tu dis...
On a très bien fait. Et là, quand tu dis, est-ce que je crois au destin, etc. Moi, je crois vraiment au destin, à la providence, j'en sais rien. Mais là, il faut quand même avoir en tête qu'on a fait l'entrée de financement à quelques semaines du confinement. Et je pense que même une ou deux semaines après, tout le monde aurait dit, bon, on attend de voir comment ça se passe.
Bien sûr.
Et donc, en fait... on n'aurait pas pu faire après, cette rentrée nous a vraiment maintenu à flot pendant l'année Covid.
Donc bon timing. San Diego, c'est parti pour une dernière pause amicale. Ça va te faire sourire par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir. On l'écoute.
Santiago, mon cher, une question. J'espère que tu vas, avec Change Now et l'équipe, contribuer à améliorer le destin collectif de notre planète. Et donc ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu feras quand tu auras contribué à sauver la planète? Ça sera quoi la suite? Voilà, je t'embrasse.
Pierre Louette, qui est donc le président directeur général du groupe Les Échos, quelqu'un que j'aime beaucoup, je connais depuis longtemps.
Ce qui est très bien avec Pierre, c'est qu'il a aussi une vraie dimension humaniste. Et je pense qu'on se retrouve sur cet aspect-là, en fait. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui va se faire après? Je dirais qu'en vrai, sauver la planète, c'est quelque chose qui va se faire tous ensemble, en espérant qu'on y arrive. Moi, en vrai, ce que j'aimerais beaucoup, c'est... qu'on sauve aussi un petit peu l'être humain, la partie d'humanité qui est en chacun de nous. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai quand même le sentiment qu'au fond, on vit dans un monde qui n'est pas facile, qui est dur, avec des règles d'un système qui est parfois difficile et violent aussi. Et comment est-ce qu'on fait pour garder une part d'innocence, de compassion, d'amour et d'amitié dans chacun de nous?
Tu sais déjà ce que tu as envie de faire après?
Il y a beaucoup d'idées, et je ne sais pas où est-ce que je serai le plus utile. Mais je sais qu'il y a vraiment cette question-là de se dire où est-ce que je peux avoir le plus d'impact, et sans donner de réponse précise encore, parce que on peut tout envisager. Moi, je me dis, tu vois, en fait, moi, ce que j'essaye de faire actuellement, c'est que en moyenne, chaque année, j'aime bien avoir un projet que j'essaye d'initier. On a lancé, par exemple, le classement des écoles. Donc, on a le sommet, on a le classement des écoles, on a les job fairs, on a des projets qui sont dans les cartons. Et je me dis, voilà, si on arrive à créer comme ça, chaque année, une brique en plus de quelque chose qui a un impact de manière exponentielle, et ben à la fin d'une vie, ça représentera beaucoup, beaucoup de changements.
On vient de revoir ton parcours ensemble, depuis ce petit village natal. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui vient d'un milieu similaire, d'un milieu populaire, au tien, pour le pousser à lui aussi briser ce plafond de verre que tu as réussi à briser?
Moi, mon conseil, c'est de multiplier les expériences, très clairement. Moi, je pense que j'ai été quelqu'un qu'on pouvait dire, enfin, qui ne s'arrêtait jamais. Hein, et encore, en fait, aujourd'hui, je suis toujours mu par comment est-ce que je peux apprendre et vivre une expérience qui va m'emmener peut-être à l'étape suivante et de tout prendre sous la forme d'enrichissement personnel. Tu vois. Moi, j'ai l'impression de d'avoir investi énormément en moi. Et ça, c'est quelque chose que je recommande à tous, en fait, de prendre le temps de dire bah, pourquoi pas tester ça. Et en fait, ça marche pas, mais en fait, ça te forge, ça t'apprend des choses. Et tu vois, et moi, je lis énormément de biographies. Moi, une des choses qui m'a marqué le plus dans les biographies des grands hommes, et il y en a surtout une qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de Churchill. Churchill, il était mu aussi par cette volonté de multiplier les expériences. Il voulait apprendre ce que c'était la guerre, le combat. Il va en Inde et là il arrive le champ de bataille et enfin il arrive pile à la fin de la bataille. Alors il regarde où est-ce que il y a une autre bataille et puis il prend le train direct et il y va. Et en fait là où quelqu'un espérait plutôt qu'il n'y ait pas de bataille, lui il allait en Inde et pour faire 3, 4, 5 batailles. Donc voilà, bon là c'est un cadre un peu particulier, mais apprendre, tester des choses, ne pas avoir peur.
Je propose maintenant une pause musicale. Santiago, quelle est ta chanson culte ?
Help des Beatles.
Pour terminer, passons à une petite pause alignement. Cette petite pause s'est inspirée de mon nouveau livre, un livre autour d'une méthode simple, apprendre à mieux se connaître et assumer ses bons comme ses mauvais côtés pour arriver à atteindre cet alignement et ainsi vivre une vie vraiment épanouie et plus heureuse. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'inspire ce terme à toi, une vie alignée ?
Alors moi, je suis aligné dans le déséquilibre, hein, quelque part, parce que je pense que j'ai une tendance à vivre les choses parfois trop intensément ou à rentrer trop dans des... Enfin, être trop à fond sur les trucs. Après, moi, je pense que c'est comme ça que je vis mon alignement. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais enfant aussi, j'étais allé en visite au Père Lachaise. Bizarre, voilà, mais bon, on visitait le Père Lachaise. Et là, je me dis, ah, moi, si un jour j'avais réfléchi à mon épitaphe, je me dis, j'aimerais qu'il y ait marqué ah, ça tombe bien, je commençais à fatiguer. Et en fait, mon alignement dans la vie, c'est d'avoir vraiment tout donné et d'avoir dit, ok, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais.
C'est beau ça. Maintenant, quelques petits exercices que nos auditrices et auditeurs peuvent retrouver dans mon livre. Tu vois, c'est à la fin du bouquin, j'ai mis quelques exercices pour justement un peu s'entraîner justement à cet alignement. Donc, je vais te poser quelques questions. Tu vas voir, il y en a qui sont simples, d'autres un peu moins, mais on va commencer par les simples. Quels sont tes petits plaisirs au quotidien? Tout simple, les choses.
Ouais. En fait, j'aime bien juste ouvrir un livre, un bouquin en papier. Tu vois, le papier, c'est cool.
Quels sont les deux projets que tu as toujours rêvé de faire que tu n'as pas encore réalisé?
Je pense que j'ai En fait, j'aimerais bien faire un tour en sous-marin. J'aimerais bien voir un peu de profondeur marine, premièrement. Et puis le deuxième, à l'inverse, j'ai jamais vraiment fait de haute montagne.
Toi, tu fais vraiment les extrêmes. Hein.
Ouais.
Quelles sont peut-être les deux personnes à qui tu ne pourras jamais assez dire merci?
Mes parents.
Est-ce que tu te souviens de quelques moments difficiles, très difficiles dans ta vie, comme on a tous vécu, Comment les as-tu surmontées, toi? Qu'est-ce qu'elles t'ont appris?
Ouais, super question. Ouais, en fait, j'en ai souvent. Hein. C'est une vie, comme je dis, assez chaotique. En fait, moi, il y a une lecture qui m'a beaucoup aidé. J'ai découvert, à un moment, c'était le poème de Rudyard Kipling, Tu seras un homme, mon fils. Et là-dedans, justement, il te parle de la capacité à ne pas complètement perdre pied face aux aléas de la vie. Et en fait, il dit affronter, je n'ai plus exactement les bons termes, mais c'est accepter la gloire comme les plus grandes défaites du même front. Et ce côté-là, c'est ce que j'essaye de faire. En fait, voilà, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, mais reste dans ton cap. Et je sais pas. En tout cas, ce poème-là, parfois j'y reviens et il m'aide.
Une chose que tu aimes faire, mais où tu n'es pas bon.
Facile. Le jardinage et les plantes. En fait, j'ai pas du tout la main verte. J'ai tué deux cactus dans ma vie déjà.
Mais t'aimes faire.
Et pourtant, j'adore planter des graines, etc.
Et à l'inverse, une chose que tu n'aimes pas faire, mais où tu es bon.
Il y a peut-être une chose. Au niveau de mes relations interpersonnelles, parfois, tu vois, par exemple, si je dois faire un rendez-vous où on doit juste être sur les questions d'humain, ben j'ai l'impression, moi, que j'aime pas faire ça parce que j'ai peur. Je me dis, parfois, je me sens trop dans mes idées, dans mes trucs, etc. Et au final, j'arrive à ouvrir mon cœur quand même et à être bon là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une appréhension. Ouais. Tiens.
Et une dernière question, quelle est ta destination idéale pour faire une pause?
Je dirais, j'ai mon petit coin de paradis à moi, qui est Denia, en Espagne, entre Valence et Alicante. C'est là où je pars en vacances tous les ans depuis que je suis tout petit. Et voilà.
Merci. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux si tu en as? Ils te contactent comment? Les gens, s'ils veulent après ça te parler, te dire à quel point ils ont une bonne solution à te proposer ou autre, ou te parler, te raconter leur propre trajectoire?
Bien sûr. Moi, je suis super accessible sur LinkedIn. Donc, Santiago Lefebvre sur LinkedIn. Et voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de me contacter.
Santiago, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi.
Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.